les eaux fleurissent. Ris, entrez, la vie est un délice. Ris, bambelle d'enfant, regard complice.
Les éclats de lire. Une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 16 et 17 mai au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio.
Les éclats de lire.
Pour mieux connaître la littérature jeunesse et ses acteurs. Quel enfant étiez-vous ?
Joyeux, hyperactif, brutal, avec les brutes et souvent amoureux.
Quel livre pourriez-vous relire 100 fois ?
Little Nemo de Winsor McCay.
Quel livre vous a bouleversé ?
Le Maître et Marguerite de Bulgakov.
Quel livre auriez-vous voulu écrire ou illustrer vous-même ?
Aucun, parce que les livres que j'aime me contentent tels quels.
Parmi les autres êtres vivants, qu'auriez-vous aimé être ?
Un chat.
Je suis...
Régis Lejon.
Bonjour Régis, aujourd'hui on va parler participatif et collectif avec toi.
Ah oui.
Et pourquoi ? Parce que toi tu es auteur, illustrateur de livres pour la jeunesse et tu n'aimes pas travailler tout seul, j'ai l'impression, vu que tu t'entoures de plus en plus de personnes. Alors pas seulement... un auteur ou une autrice et une maison d'édition, mais de plein d'autrices et d'auteurs. On va un peu parler de tout ça, notamment avec ce magnifique livre « Les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa » qui est sorti en octobre 2023, mais pour lequel tu as et vous avez, avec toute l'équipe de Gaïa, lancé un financement participatif avant de le publier. Oui. Est-ce que tu peux un peu parler de ce financement et de la jeunesse de ce projet ?
Alors, dès le départ, en fait, les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa, c'est une envie personnelle d'illustrateur. Il faut savoir que c'est vrai que moi, je travaille depuis très longtemps, ça va faire une trentaine d'années que je publie des livres jeunesse et je travaille la plupart du temps avec des auteurs. Je ne suis pas l'auteur des textes, j'en suis l'illustrateur. Et on raconte ensemble les histoires. Et donc, le chemin traditionnel, en fait, du livre commence toujours par le texte. C'est assez logique, d'ailleurs, quand on est illustrateur, enfin, il faut qu'on ait un support à illustrer. Donc le texte préside et commence toujours avant le travail d'illustration. Et pour les 9 vies de la princesse Gaïa, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de sujets, plein de thématiques que je n'avais pas eu la possibilité d'aborder en illustration à travers les livres que j'avais publiés jusque-là, et qui me tenaient à cœur. Alors, le chemin était inverse, c'est-à-dire que c'est moi qui ai sollicité des auteurs pour un projet d'envergure en leur imposant des thématiques qui me sont chères et particulières. Et donc, c'est un chemin qui est complètement inversé, c'est-à-dire que le projet est né d'images de déclenchement que j'ai réalisé pour chacune et chacun des auteurs du projet, pour déclencher chez eux l'envie d'écrire l'un des chapitres de la vie de ce personnage qui donc en vivra 9, et ce qui a imposé 9 autrices et auteurs sur le projet.
Et quelles thématiques, par exemple, tu voulais aborder ?
Alors les thématiques, en fait, c'est celles qu'on retrouve dans chacun des chapitres, c'est-à-dire que moi j'aime la piraterie, ouais. Les histoires de pirates, j'aime les histoires d'aventure, l'époque des conquistadors, par exemple. Il y a des périodes de l'histoire qui me sont chères. J'aime la magie, la sorcellerie, l'étrange, le merveilleux. Voilà, toutes ces choses-là. Et finalement, est-ce qu'il était possible de mettre tous ces ingrédients dans une même histoire, finalement? Ça pouvait ressembler à un gros gloubi-boulga, au final, mais en les séquençant comme ça par chapitre et par vie séparée dans des siècles et dans des cultures, des géographies différentes, ça m'a permis de glisser comme ça et de suggérer à chacun des auteurs ces thématiques-là. Puisque de toute façon, le titre de l'ouvrage, Les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa, donne la règle du jeu. C'est-à-dire que ce personnage va vivre 9 vies, mais ces 9 vies seront toutes extraordinaires, qui plus est. Donc c'était à eux d'inventer l'extraordinaire de chacune de ces vies-là. Ça, c'est vraiment l'envie première.
Et donc, tu avais envie d'explorer ces thématiques et probablement de travailler avec certaines personnes. Tu as choisi 9 autrices et auteurs que tu connais déjà, je pense.
Oui, c'est pas un hasard. En fait, évidemment, quand on part sur un projet comme ça, on sait d'avance qu'on part sur une aventure humaine, et ça rejoint cette thématique du collectif et qui, moi, me stimule particulièrement, c'est qu'on va vivre ensemble quelque chose d'inédit. Ce sera une aventure, une traversée, un voyage que l'on va partager ensemble, et forcément, sans trop savoir, les choses sont possibles, et deux, jusqu'où ça nous mènera. Donc on ne peut pas le faire avec n'importe qui. Ce que je veux dire par là, c'est que des autrices et des auteurs de très grand talent, j'ai la chance d'en connaître, mais des personnes avec qui je pouvais envisager cette aventure, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Parce que c'est encore une fois une aventure humaine. Il faut que ça se passe bien, il faut qu'il y ait une relation de confiance établie entre nous tous dès le départ. Parce qu'encore une fois, quand j'ai émis cette envie-là, on n'avait pas d'éditeur, on ne savait pas comment ce livre, c'est l'envergure de ce livre-là, c'est-à-dire à 10 auteurs, ça fait la taille d'un roman, c'est forcément un très grand livre en termes de pagination, il n'y a pas loin de 150 pages, ce qui pour un album est très rare. Donc tout ça, on le sait dès le départ et on ne sait pas si on y arrivera. Et c'est de là que passe la deuxième étape du projet, qui a consisté à trouver toujours dans cette logique collective et humaine, d'aventure, de trouver l'éditeur qui pouvait nous accompagner sur un tel projet, qui est quand même assez fou et inédit dans le fond en jeunesse. C'est-à-dire comment il était possible de faire ce livre-là avec 10 auteurs, de trouver une équité économique sur un tel projet, et c'est de là qu'il a fallu inventer quelque chose qui n'avait pas été fait et qui a été par le financement participatif parallèle à la publication du livre, de manière traditionnelle, par la maison d'édition Little Urban.
Oui, là, vous aviez déjà trouvé un éditeur partant pour ce projet.
Oui, c'est Little Urban. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Dans un premier temps, moi, j'étais en lien avec des éditrices que j'aime beaucoup, par ailleurs, au Seuil. Mais en fait, il n'a pas été possible de trouver de solution pour rendre ce projet viable avec cette maison-là. Et ça l'a été avec Little Urban. Donc, finalement, on est tombé sur la bonne maison. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis qu'il n'y en aurait sans doute eu aucune autre capable de cette aventure-là. Et ça tient aux personnes qui font partie de l'équipe de la maison d'édition, à Audrey Latalerie, qui est l'éditrice, mais aussi à Paul Scorseggia, qui est le patron de la maison, et avec qui nous avons trouvé la solution de cette possibilité de faire un tirage hors commerce.
Oui, parce qu'il fallait quand même payer 10 auteurs et autrices, plus le personnel de la maison d'édition.
Exactement.
Et que ce soit quelque chose de viable.
Ben oui, parce que le projet est d'envergure, c'est-à-dire que le travail qu'il engage, autant pour les auteurs que pour moi, il est hors norme. Donc il fallait, voilà, on n'a pas les moyens individuellement de faire des livres comme ça sans réfléchir à son économie. Et c'est de là que cette possibilité de faire un tirage parallèle, un tirage qui est hors commerce, qu'on va appeler un tirage de tête, ou qu'on va appeler le tirage des auteurs, nous a été accordé par la maison d'édition, et à notre charge, de nous 10 auteurs, de mobiliser notre réseau par un financement participatif sur la plateforme Ulule, qui, en échange de la contribution, a permis aux gens d'obtenir le livre dans un format collector, on va dire, il y en a eu 800 au final. Et ça nous a permis de récupérer la part de l'éditeur qui nous a été cédée, la part du libraire, puisque le livre n'était pas en vente, et à notre charge la diffusion, la distribution, et également sur la partie de coût de production de ce tirage, il était amalgamé au tirage courant que l'éditeur a par la suite mis en place, ce qui nous a permis d'avoir un coût de fabrication à l'unité, puisque c'est un très beau livre, c'est un livre qui a un grand format, épais, de très belles factures, qui nous a permis d'avoir un prix à l'unité qui était tout à fait correct, puisque l'intérieur du tirage des auteurs que nous avons fait était le même que pour le tirage courant, si vous voulez. Donc c'est comme ça que les choses se sont montées. Donc il a fallu mener une campagne de financement participatif qui était en amont et en même temps qui correspondait au moment où on travaillait concrètement les uns les autres sur le projet, pour pouvoir créer une rémunération fixe pour nous 10, et ensuite, par le tirage courant traditionnel de la maison d'édition, il y a des droits d'auteur qui ont été divisés, 10% de droits d'auteur divisés en 10, donc chacun 1% de droits d'auteur sur le prix du livre, qui s'activait dès le premier livre vendu en librairie. Ça a été ça le modèle économique qui a créé une équité, c'est-à-dire une
Alors on peut rappeler qu'en général, les pourcentages de droits d'auteur en Lité Jeunesse, c'est environ 6 à 10% quoi.
Alors c'est 6% très souvent sur l'album illustré. Alors ceci s'explique, alors je dis pas que ça justifie, hein, mais ça s'explique, en fait les droits d'auteur, quand ils s'exercent sur le livre, ils sont intimement reliés au coût de fabrication de l'objet. C'est-à-dire que quand on prend par exemple un roman, même dans sa première édition, etc., ça coûte vraiment pas cher à fabriquer un roman. Ce sont des papiers, il n'y a qu'une seule encre noire, etc. C'est souvent une couverture souple, etc. La bande dessinée, c'est déjà un album en dur la plupart du temps, des beaux objets, donc il y a un coût qui est supplémentaire. Donc en roman, c'est souvent 10% qui s'exerce comme droit d'auteur. En BD, généralement 8%, et en jeunesse, très souvent 6%. Oui. Donc 6%, quand on est deux, c'est 3 et 3% chacun, ce qui n'est jamais suffisant pour vivre du livre à part entière. People up our views, I know it's old news, but also bad news for everybody. People up our views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know I choose. We don't like to lose to anybody. People up our views, but I don't buy views. Don't dance on my views and watch your back. And watch your back, I'll break your neck, I'll pop again. A viral lack and paint you black. Your name in black, the list I'm keeping overpacked. The others keep the numbers fake and cut the ring so. Every day I'm low until I blow. Big in hell, I call me Dash the Stove. Money, let the puppets run the show. Underrated, calling me to know. Underlit, my B, we have to go. See you later, underrated, still it's me, LMAO. At the gate of Eden Garden, I'll be on the speedy button. Tiny trolley with my slate in, clean and shining. But they don't mind it, you gotta chime in. Oh, they don't know what to keep in store. When I be counting big cash, they be on the score. They don't know what to keep in store. Buy fools, buy views, touch wood, no, I don't pop with that. With that. People buy views, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know I choose. We don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't dance on my views and watch your back. Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You ain't getting views and I know you're jealous. 8, 9, 10 milli like 11. I'ma elevate the bread till we get to heaven. I got a whole lot of cash, blowing it fast. Looking like I stole in the stash. War on the best, baby. Y'all love the hate, not getting cake. I can tell that you represent that fakeness. Un mot peut-être sur la musique qui accompagnait cette émission, Views de Noga Erez. Alors, moi, c'est une découverte assez récente, Noga Erez. En fait, c'est le nom de la chanteuse, mais c'est le nom d'une sorte de groupe qui fonctionne de manière un peu collective aussi. C'est pour ça que j'ai pensé à eux. D'abord, j'aime beaucoup leur musique. Et qui s'entoure de musiciens autour de projets, de morceaux, c'est une espèce de groupes comme ça multiformes et voilà, moi c'est un coup de cœur assez récent et je trouvais le lien de collectif pertinent avec ce dont on a parlé aujourd'hui.
Et c'était un pari un peu fou, ce financement participatif, non? Il a super bien marché en plus, mais est-ce oui. qu'il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit non mais... Donc ça ne va pas le faire.
Alors, les doutes, ils sont permanents quand on expérimente quelque chose. On ne sait pas du tout si on va y parvenir. Mais ce qui était formidable, c'est que l'envie d'y parvenir, elle était l'enthousiasme et la foi dans le projet a été la même pour tout le monde, qu'on soit les auteurs ou la maison d'édition. Tout le monde s'est retroussé les manches pour imaginer comment faire ce livre le mieux possible. Et c'est vrai qu'on est très content du résultat. Il y a eu des moments de flottement, c'est normal, mais pas tellement de doute sur le fait qu'on allait parvenir à faire quelque chose. Et ce qu'on ignorait, c'était l'adhésion, on va dire, des particuliers au soutien là sur ce financement participatif sur Ulule. Ça, on avait l'autorisation quand même, ce qui est assez large, de pouvoir aller jusqu'à 2000 exemplaires. On en a finalement fait 800, ce qui a permis une rémunération, je vais être très concret, de 1700 euros pour les auteurs et de 2500 euros pour moi, en rémunération. Ce qui, encore une fois, il faut comprendre, n'existe absolument pas dans le monde du livre. Ouais. Voilà.
Du coup, c'est un super bilan. Le bilan est très positif pour cette expérience.
Il est très positif et puis il a généré quelque chose que moi, à titre personnel, je n'avais pas forcément anticipé, imaginé. C'est-à-dire que cette campagne de financement, finalement, le fait d'activer comme ça, de faire connaître le projet sur notre réseau, évidemment, notre réseau, il est majoritairement professionnel du monde du livre, hein, de tous les maillons de cette chaîne du livre. Et donc, notre campagne, elle a été vue, le projet a été connu de beaucoup de monde et finalement attendu. Au-delà des personnes qui ont contribué au projet.
Ça a également permis à faire un bon coup de communication.
C'est ça, ouais. une diffusion, une prédiffusion du projet qui a créé de l'attente également chez les libraires ou chez les médiateurs du livre, alors que le livre était en cours de fabrication, ce qui est aussi quelque chose qui ne se fait pas habituellement, puisque généralement, on connaît l'existence du livre quand ce livre va être va paraître en fait en librairie, et là va s'activer un petit peu le bouche à oreille ou le travail des médiateurs ou des la connaissance du projet s'active à ce moment-là d'habitude. C'était très en amont.
Ce livre, il a une suite aussi maintenant qu'il a été publié en octobre 2023 finalement. Et oui. Il y a une suite puisque là, ça fait un an que vous, 10 auteurs-autrices, vous tournez un petit peu dans les salons pour proposer des lectures et des activités autour de ce livre. Et notamment aux Éclats de Lire en 2025. Ce sont vous, les 10 auteurs que nous invitons. Donc, on va pas faire une édition spéciale Gaïa, puisque vous avez tous un travail très intéressant par ailleurs, mais il y a quand même ce lien, ce personnage de Gaïa qui sera là.
Absolument, et puis ça aussi c'est quelque chose qui est inhabituel sur ce qu'on appelle des collectifs, parce que des livres collectifs, ça existe, hein. On peut retrouver des recueils où plusieurs auteurs écrivent des nouvelles, ou bien en jeunesse, des albums autour thématiques avec des illustrateurs invités, enfin, je veux dire, l'objet d'édition collectif existe depuis longtemps. Mais généralement, pour avoir participé à certains, moi en tant qu'illustrateur, on est content parce qu'on se retrouve avec d'autres, il y a un côté un peu festif, mais bon, généralement on a une rémunération forfaitaire assez basse parce que nous sommes nombreux, et puis on ne se sent pas particulièrement engagé vis-à-vis du livre comme on peut l'être sur des projets plus personnels, si vous voulez. Et là, ce qui est aussi un phénomène avec ce livre, c'est que quand bien même nous sommes 10, nous sommes tous les 10, très très engagé vis-à-vis de ce livre, c'est-à-dire que c'est un livre que nous défendons, que nous retrouvons sur les salons, et nous avons donc imaginé tous ensemble de pouvoir en partager des lectures dessinées. Donc, que j'accompagne moi en tant qu'illustrateur, avec chacune et chacun des auteurs, pour pouvoir partager ces histoires en direct, sous forme de performance comme ça, de spectacle. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est très rare qu'on soit rassemblés tous les 10, ce sera le cas là au Vigan en mai prochain. Oui. Mais c'est très rare parce qu'évidemment, comme vous le disiez, on a aussi notre travail individuel.
Et tous des emplois du temps.
Et des emplois
du
temps.
Bien sûr, et vous n'habitez pas tous au même endroit.
Exact.
Voilà.
Donc c'est vrai que c'est très rare qu'on soit tous les 10 rassemblés, et ce sera le cas là au Vigan. Très bientôt, quoi. Enfin, très bientôt, printemps prochain.
Au mois de mai, le week-end du 15-16 mai.
Au mois de mai.
Et cette expérience participative et collective, c'est pas un one-shot, puisque tu as récidivé avec les balnéaires.
Oui,
donc,
parce qu'en fait...
C'est pas exactement le même projet.
Non,
ça
n'a
pas
ça,
exactement la même histoire, la même genèse.
Non, mais ça a en commun, évidemment... ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur des aventures collectives, le fait de vivre ensemble quelque chose d'inédit. Alors les balnéaires, d'abord un projet qui n'est pas à proprement parler un projet jeunesse, il est plus un projet, on va dire, adulte et adolescent, et il traite de la représentation ou du corps féminin. Et c'est la genèse de ce projet-là est venue, là aussi, hein, j'en suis à l'origine, par une prise de conscience vraiment intime et assez frappante, mmh. qui a consisté à ce... Dans la vie, moi, je suis assez outré de la manière dont sont traités les canons des corps des femmes à travers la publicité, les marronniers tous les ans, régime minceur pour rentrer dans son maillot avant l'été, etc. Ce sont des choses qui, moi, m'horripilent depuis longtemps. Et pour autant, tant qu'illustrateur... Et voilà, c'est ça.
Et pourtant, ça sur Instagram,
exactement.
Tu publies quelques dessins de jeunes filles lascives sur la plage.
C'est
mais
ça.
Heureusement, tu es bien entouré par
oui,
des amis
ça.
Et autrices qui crient au scandale et qui te font réagir.
Ben oui, parce que moi, quand je dessinais des filles, je dessinais des jeunes filles de magazines, alors que ça me déplaît par ailleurs. Et c'est donc une amie autrice, qui me fait remarquer ça. Et ça a été un peu une espèce d'électrocution dans ma tête, parce que je me suis rendu compte, tardivement, parce que je suis pas tout jeune non plus, que finalement, cette imagerie des canons esthétiques imposés, évidemment, pèse particulièrement sur les femmes, mais insidieusement également sur les hommes. Et ça, j'en avais pas conscience avant, à titre personnel. Donc, de mettre en lien et d'être cohérent, finalement, entre ma perception de ces choses-là dans la société et finalement mon travail d'illustrateur, c'est-à-dire d'être capable de représenter des femmes, en tout cas des figures féminines, hein, même dans l'enfance aussi, qui ne soient pas forcément pour des petites filles, des jolies petites filles bien faites. Il y a ça aussi, ce sont des choses qui maintenant rentrent en ligne de compte dans ma réflexion de représentation. Et donc cette prise de conscience a fait que j'ai fait des portraits de baigneuses, de femmes assises au bord de la mer, enfin dans cette situation particulière de l'été, hein, dont on sort il n'y a pas si longtemps, où on est tous sur la plage à se dénuder au regard des autres d'une certaine manière, avec ce que ça comporte. Et ça, ce n'est pas uniquement féminin, son rapport au corps, c'est assez rare d'être super à l'aise avec son corps, quel qu'on soit homme ou femme, mais il y a cette pression supplémentaire sur les femmes. Donc j'ai fait des portraits de femmes de toute corpulence, de tout âge et de toute origine, et j'en ai fait 63 qui a donné lieu à une exposition. J'en ai fait 63 parce que je suis parti des 31 jours de juillet, plus les 31 jours d'août, ça fait 62, plus une image, un peu de couverture, ça fait 63 figures. Et puis très vite, je me suis dit que ça pouvait être le sujet d'un livre, mais à des autrices d'en parler, c'est-à-dire d'être plus, de solliciter des autrices autour de cette question du corps, cette question de l'été, de la plage, etc., et d'écrire en toute liberté un texte autour de ce sujet-là. Et donc là encore, sur ce projet, je n'ai pas mené tout seul, je l'ai fait avec Lisa Bienvenue, qui quelqu'un qui connaît bien le livre, et puis Mathilde Rimaud, qui est quelqu'un qui plus technique sur notamment le monde de la librairie, puisque là, ce livre-là a été fait en auto-édition, nous n'avons pas travaillé avec un éditeur, mais nous avons activé un réseau de librairies indépendantes qui sont partenaires du livre et qui en ont l'exclusivité de vente un peu partout en France. Donc ça a été un projet également d'une double campagne, une campagne de financement participatif vers les particuliers, comme on a pu faire avec Gaïa, autour de ce livre-là, Les Balnéaires, qui est encore une fois très différent, et puis une campagne auprès des librairies indépendantes pour savoir si elles étaient intéressées d'avoir le livre dans des conditions qui sont un peu inhabituelles et peu confortables pour elles, puisqu'on leur demandait de préacheter le livre, ce qui ne se fait pas en librairie, puisqu'il y a un système de dépôt, puis de retour sur les invendus, alors que là, il n'y a pas de retour sur ce livre-là.
Donc c'est vraiment avec la confiance des libraires et de vos lecteurs que vous avez pu faire ce livre.
Absolument. Et puis, c'est assez passionnant. Moi, ça me passionne parce que c'est une façon de faire les livres autrement, de mener des projets qui peuvent être, pour Gaïa, d'une envergure hors norme, c'est-à-dire que ce genre de projet, je ne suis pas le seul, beaucoup d'auteurs renoncent à faire ce genre de projet, comme Gaïa, par exemple. C'est-à-dire des projets d'envergure parce qu'ils savent qui vont se faire mal économiquement, ou que ça va être très compliqué à réaliser. Donc je sais qu'on peut se brider un petit peu l'imaginaire et les envies quand on connaît un petit peu le système de l'économie du livre. Donc essayer de faire des livres qui peuvent démontrer que c'est possible, ça me paraît important. Et puis sur les balnéaires, c'est de voir s'il est possible de réaliser un ouvrage en y mettant de l'équité et de l'éco-responsabilité, c'est-à-dire en essayant on peut pas réparer, mais d'éviter ce qui se passe dans le monde du livre habituel, c'est-à-dire des retours, du pilonnage, de la circulation, beaucoup du livre en camion, d'essayer d'activer un circuit court, de travailler aussi avec un imprimeur local. En l'occurrence, moi je suis à Bordeaux et l'imprimeur il est à Tulle, et c'est à 2 heures. Et tous les livres sont partis directement de l'imprimerie vers tous les commanditaires, qu'ils soient particuliers ou que ce soit des librairies. Donc ça permet de résoudre des choses que le monde du livre aujourd'hui ne parvient pas véritablement à résoudre.
Merci beaucoup Régis Lejon.
Ben avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.
Les éclats de lire, une émission de radio.
Le troisième mercredi du mois à 15h30, rediffusé le dimanche qui suit à 11h.
Les éclats de lire, une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 16 et 17 mai au Vigan.